Rencontre avec un élu, une émission présentée par Antoine Armstrong, directeur adjoint de Compublic, agence de communication institutionnelle.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro. Nous accueillons aujourd'hui Sonia de la Provôté. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sénatrice du Calvados, vous êtes notamment dans la délégation aux collectivités locales à la décentralisation sur les revitalisations des centres-villes et des centres-bourgs. Vous avez notamment co-rédigé un rapport d'information sur la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs. 14 recommandations ont été faites notamment suite à la loi Elan 2018. La première recommandation, on va commencer par le début, la première recommandation porte notamment sur l'amélioration du dispositif fiscal de Normandie, qui permet notamment aux particuliers achetant un logement à rénover dans un quartier ancien dégradé pour le mettre en location de bénéficier d'une réduction d'impôt. Quelles sont les mesures que vous préconisez pour améliorer ce dispositif ?
D'abord, c'est un dispositif qui a besoin d'être musclé et d'évoluer. Il doit être connu. C'est-à-dire que pour l'instant, il est vraiment méconnu des élus, méconnu des propriétaires privés. Et donc, il n'est pas en quelque sorte vendu par auprès des propriétaires, par les élus locaux dans les communes, dans les intercommunalités, y compris par les coordonnateurs de projets. Petite ville de demain ou Action Cœur de Ville.
Besoin de publicité.
Donc il y a besoin d'une réelle publicité, d'une information. Donc on a d'ailleurs dans le cadre de notre rapport rencontré certains territoires où il y avait une fiche ad hoc qui avait été mise en place et distribuée très largement. Et du coup on voit qu'il a une réelle utilité puisque le de Normandie c'est du Malraux sur du patrimoine moins patrimonial au sens historique du terme. Et l'objectif c'est de remettre à niveau tout le parc à la fois de logements mais aussi de bâtiments d'une manière générale. Dans le cadre d'un ORT suivi par Petite Ville de Demain ou Action Cœur de Ville. Donc il est nécessaire, puisque ce parc est ancien par définition, il a besoin d'être mis aux normes de façon thermique énergétique, aux normes acoustiques de fait, puisque c'est la conséquence de la mise aux normes thermiques, et puis aux normes d'accessibilité. Et très clairement, on voit bien que c'est un outil indispensable et qui n'est pas utilisé. Et on veut aussi élargir son assiette, puisqu'on souhaiterait qu'il puisse être étendu au commerce de rez-de-chaussée, puisqu'on voit bien que dans ces centres-villes, qu'ils soient d'ailleurs de la reconstruction après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, comme c'est le cas dans de nombreuses villes, mais aussi sur le parc beaucoup plus ancien, comme à Chinon, par exemple, on voit bien que le destin du commerce est lié au destin des logements au-dessus, et que faute d'avoir pu aménager le commerce ou aménager les logements et séparer l'accès entre le commerce et le logement, eh bien certains logements sont vides au-dessus des commerces puisque le commerçant n'habite plus en étage de son commerce désormais. C'est pas l'évolution logique. Et donc on aimerait pouvoir appliquer le de Normandie aussi pour la mise aux normes des commerces. Ce sont souvent des petites surfaces commerciales. Il y a des problèmes d'accessibilité aussi. Or on voit bien que l'évolution en fonction du type de commerce qu'on souhaite voir se développer dans les cœurs de ville et qui mettent de l'animation, eh bien il faut pouvoir agrandir, il faut pouvoir élargir, il faut pouvoir approfondir et puis parfois regrouper plusieurs commerces bout à bout sur plusieurs bâtiments mitoyens.
Donc c'est un dispositif qui a besoin d'être connu, besoin de faire plus de publicité, remettre à niveau le parc, mais surtout avec cette volonté finalement de l'étendre au commerce et de permettre une mise aux normes au commerce. Donc on voit qu'il y a un nouvel engouement qui pourrait être apporté. Vous avez parlé de Chinon qui est notamment dans le dispositif Action Cœur de Ville. Alors dans le rapport que vous avez rendu, qui souligne notamment l'importance de ces deux dispositifs, Action Cœur de Ville et Petite Ville de Demain, qui participent à la revitalisation des territoires, vous évoquez aussi la difficulté des élus locaux à mettre en œuvre les mesures prévues par ces programmes. Qu'est-ce que vous proposez finalement dans ce rapport pour les aider ? Il y a des fonds d'intervention qui ont été mis en place pour soutenir ces actions financières. Comment est-ce que ça se passe finalement ?
Alors d'abord, il y a eu un problème de visibilité dans le temps. On ne rénove pas un cœur de ville ou un centre-bourg en l'espace d'un mandat municipal. Deux, déjà, c'est mieux, voire trois, c'est idéal.
Donc le programme ACV1 a été lancé en 2017 et projet ACV2 jusqu'en 2026.
L'idée, c'est de le prolonger jusqu'en 2026. D'abord, un, pour qu'il y ait des perspectives budgétaires, parce qu'une programmation pluriannuelle d'investissement ne s'arrête pas non plus à la fin d'un mandat municipal et que comme ces restructurations, par définition, de cœur de ville ou de cœur de bourg, nécessitent d'être multi-axes et multi-projets, on a besoin de pouvoir avoir des perspectives financières et de répartir les enveloppes dans le temps au fur et à mesure du déploiement du projet. Ce sont des projets à 15 ans, quoi. Ce ne sont pas des projets de court terme, ce sont des projets de moyen terme, voire de long terme dans certains cas. Et donc, on a besoin de savoir quelle part financière on aura de disponible pour les espaces publics, quelle part pour la mise à niveau, par exemple, du logement, quand on est sur du logement plutôt public ou du logement social, quelle part on a d'utile pour pouvoir accompagner financièrement la réhabilitation du logement, la mise en place de services publics, les pôles de santé, par exemple, qui sont en train de se développer de façon plus large, ont vocation à être dans des centres-villes de ce type. Et la même chose pour aussi tout ce qui est espace vert, qualité de vie, massification de la mise aux normes environnementales de tout l'ensemble. Donc tous ces sujets-là, en fait, nécessitent de pouvoir avoir à peu près des perspectives, au moins, en tout cas, à l'échelle de deux mandats financières. Et puis, quel type de financement ? Parce qu'on a de l'accompagnement en ingénierie. Et donc, ça, clairement, à partir du moment où on a un coordinateur cœur de ville ou cœur de bourg, enfin, ACV ou petite ville de demain, et qu'on a aussi un manager de centre-ville, bien, il faut pouvoir s'appuyer sur ses compétences sur un temps un peu plus long que les 3 ans d'accompagnement prévus. Parce que, évidemment, ce sont techniquement des personnes qui portent une vraie connaissance, qui sont reconnues aussi, qui sont reconnues par tous les interlocuteurs et qui donc sont même si c'est un peu trivial de le dire, mais une sorte de guichet unique de la question de la réhabilitation du centre-ville.
C'est l'interlocuteur unique qui peut répondre à toutes les questions.
Quand ils ne sont plus là, eh bien, c'est tout un pan de la connaissance, mais aussi de la destinée de ce centre-ville qui part, quoi. Et donc pour ça, il faut pouvoir les financer parce que 3 ans, évidemment, c'est un petit peu court à l'échelle de ce projet. Et puis accompagner, c'est aussi assouplir un peu le contenu des dossiers et limiter les appels à projets. C'est-à-dire qu'une fois pour toutes, dire qu'on est reconnu avec le label et on est accompagné dans le temps. Alors pour Action Cœur de Ville, par exemple, il y avait 5 items. Peut-être pas être obligé de répondre à tous les items. Oui. C'est-à-dire que cette espèce de formatage national peut-être mériter un peu plus de souplesse. Il y a vraiment le grand écart entre le centre-ville de Lisieux, qui est un centre-ville reconstruit, et puis Chinon, que je reprends comme exemple parce que c'est assez typique, où on est vraiment sur une période beaucoup plus ancienne, qui date pour une part de la Renaissance. Donc on n'est pas dans les mêmes sujets, pas les mêmes configurations de ville. Il y a des grandes artères d'un côté, il y a des petites ruelles étroites et labyrinthiques parfois de l'autre, avec des arrières-cours. Et donc il faut vraiment pouvoir mettre de la souplesse dans tout ça. Et donc l'idée d'un label national est intéressante. De là à formater complètement le dossier, je pense qu'il faut vraiment qu'en local, l'État puisse accompagner pour que chaque dossier soit mis à la main des projets locaux. Et puis parce que ces projets-là, ce destin-là des cœurs de ville et cœurs de bourg, c'est aussi des projets qui concernent les habitants et qu'à partir du moment où ils mettent leur point de vue, ils mettent leur histoire, ils mettent leurs envies, pour le destin de là où ils vivent, bien évidemment, on est sur des choses beaucoup plus différentes d'un territoire à l'autre.
Donc finalement, on peut se réjouir que ce programme se lance dans une deuxième phase, puisque ça donne de la visibilité, des perspectives budgétaires à long terme. J'ai bien noté qu'il pouvait y avoir aussi une nécessité de simplifier aussi pour que finalement, on réponde à certains projets. La simplification aiderait peut-être à aller plus vite. On a donc vu dans ce premier passage la revitalisation des cœurs de ville, petites villes de demain, donc l'aménagement du territoire. Mais l'aménagement du territoire, c'est aussi comment est-ce qu'on construit le développement de nos villes. Vous avez été notamment secrétaire de la commission spéciale sur la proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de zéro artificialisation nette, le fameux ZAN au cœur des territoires. Vous avez, à ce titre-là, déposé plusieurs amendements. Et vous avez notamment déposé un amendement visant à ce que les SCOT intègrent l'identification des friches et de leur état. Est-ce que vous pourriez revenir un peu plus sur l'enjeu des friches, notamment dans le cadre du ZAN, où il y a eu le fonds friche, les friches sont les endroits qu'il faut réhabiliter. Il y a le sujet du recensement de ces friches, peut-être le coût de dépollution, de réhabilitation, l'accès à l'ingénierie. Comment est-ce que finalement tout ça se met en place dans les territoires pour continuer à les transformer, eu égard aux enjeux du ZAN ?
Alors, on peut pas tout à fait dire que ça soit mis en place dans les territoires pour le moment. Donc, c'est en tout cas, c'est pas
nouveau. Il y a une volonté, mais on n'est pas encore dans la phase de
territoire de traiter cette question des friches. Mais la loi climat et résilience ayant instauré le zéro artificialisation net, ça devient essentiel et indispensable de pouvoir à la fois recenser et identifier les friches, mais aussi les qualifier. Quel type de friche ? Parce qu'évidemment, une friche aéroportuaire, une friche portuaire, excusez-moi, ou industrielle portuaire, c'est pas la même chose qu'une friche commerciale, c'est pas la même chose qu'un terrain ancien terrain de foot par exemple qui n'est plus utilisé mais qui reste quand même un terrain artificialisé puisque par définition la patte humaine s'y est exprimée et donc l'identification des friches et la classification est essentielle parce que en fonction du type de friche et eh bien c'est pas le même destin. C'est pas le même coût pour remettre à niveau le foncier.
Quelle friche pour quel projet finalement ?
C'est quelle friche pour quel projet ? Et puis l'autre type de friche, ce sont toutes les friches bâties d'équipements publics qui sont par définition des très grosses friches. Je pense aux établissements hospitaliers par exemple, qui sont souvent des surfaces très importantes qui du jour au lendemain se retrouvent inoccupés, inemployés avec beaucoup de bâtiments et pour lesquels il y a une réflexion complète à mettre en œuvre. En tout cas, des bâtiments qu'on ne peut pas réutiliser comme tels, c'est une évidence. Et donc, tous ces sujets-là sont importants. Le ministère, c'est le ministère, donc on n'a pas pu vérifier ce chiffre-là, estime à 200 000 hectares le potentiel de friches en France et dans le cadre du zéro artificialisation net, on voit bien quand même que par rapport aux 120 000 hectares qui sont autorisés, qui seraient autorisés.
Oui, il y a un potentiel finalement de transformation.
Il y a un potentiel énorme parce qu'on passerait du coup, en théorie, de 120 000 à 320 000 hectares potentiels de développement, de construction dans les territoires. Il n'empêche que ce 200 000 hectares n'est pas vérifié. Et très clairement, il y a des friches, des anciens terrains miniers, par exemple, je pense à des terrains où il y avait des mines d'arsenic, où on voit bien que la question de la pollution n'a pas été traitée. Et pour l'instant, on ne sait pas faire.
Oui. C'est-à-dire que
techniquement,
ce n'est
pas parce qu'il y a 200 000 hectares qu'il y a 200 000 hectares utilisables ou exploitables en direct. Et même pour des friches de plus petite taille, comme d'anciens équipements, par exemple, de l'État, qui ont été remis finalement dans le circuit des usages civils, parce que je pense aux friches militaires, par exemple, eh bien, la démilitarisation nécessite aussi derrière le fait que l'on démine, que l'on s'assure qu'il n'y a plus de pollution.
Il y a une adaptation, effectivement,
voilà,
aux besoins de demain.
Et donc, tout ça, ça a un coût. Et on estime quand même, alors c'est pareil, c'est une moyenne, hein, on peut aller vers des excès ou vers des choses moins importantes, mais c'est un renchérissement de 30 à 50% du coût par rapport à une construction sur un terrain dit vierge et immédiatement exploitable. Donc, pour que ce foncier-là soit concurrentiel du point de vue de ceux qui construisent, de ceux qui proposent, de ceux qui bâtissent, que ce soit du logement, des équipements, etc., il faut pouvoir compenser un peu cette différence de coût, parce que c'est une différence de coût, mais c'est aussi une différence de difficulté technique, de complexité. Et donc, il n'y a pas que l'aspect financier, il y a aussi l'aspect technique. Est-ce qu'on peut dépolluer ? Où est-ce qu'on dépollue ? Comment on fait avec ce bâtiment dans lequel il y a de l'amiante, il faut des amiantés. Enfin voilà, tout un tas de sujets.
Chaque friche a finalement ses spécificités eu égard à l'histoire et au passé qui a été sur ces endroits.
Et en outre, parce que vous parliez de spécificités, c'est exactement ça. Quand on est sur une friche hospitalière, certains bâtiments anciens méritent de garder une part de leur existence dans l'avenir du centre-ville, du centre-bourg.
Ce qui représente une part d'histoire aussi de la collectivité.
Et donc il faut garder. Et donc il y a une discussion à avoir avec les habitants pour réfléchir à ce qu'on peut garder comme témoin de cette époque-là. Donc tout ça ne se fait pas aussi rapidement que du foncier, comme on a eu l'habitude de le faire pendant des années et des années, des décennies, on peut le dire, en ne se posant pas la question du destin de la Terre. Mais désormais, on doit quand même se poser un peu la question du destin de la Terre. Et à l'époque où on parle de souveraineté alimentaire, on voit bien qu'il y a des moments où le hiatus se pose de façon un peu cruelle.
Alors vous avez évoqué effectivement la spécificité de chacune de ces friches qui doit être pensée, réfléchie. La nécessité nécessité de les recenser, de les identifier, de les classifier. Comment est-ce que finalement, vous en avez notamment évoqué l'idée au travers d'un amendement que vous avez déposé, on soutient l'ingénierie des collectivités pour faciliter la mise en place de l'objectif ZAN avec notamment la transformation de ces friches. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des outils à mettre en place et le rôle que l'État peut avoir dans le cadre de cette mesure ?
Alors sur la question des friches et sur la question du foncier en général, parce que le ZAN, c'est la question du foncier, oui. Et le nerf de la guerre, entre guillemets, du développement dans les territoires, ça va être le foncier. C'est déjà le foncier, mais maintenant, c'est vraiment d'avoir la maîtrise du foncier pour les pouvoirs publics. Dans cette maîtrise de foncier, il y a la question des friches. Donc, il faut pouvoir les identifier une à une, les identifier au travers des documents d'urbanisme, oui. Parce qu'il faut savoir où on a des friches et ce qu'on en fait, puisque ça participe d'un tout. Quelle planification finalement des friches. Mais il faut aussi mettre en place, et donc ça c'est vraiment l'ingénierie territoriale d'aménagement. Je pense aux agences d'urbanisme, aux services urbains et aménagement des intercommunalités quand elles en ont, ou des grandes villes aussi pour certaines. Les départements aussi ont commencé au travers des CAUE, mais aussi d'une ingénierie départementale ad hoc à travailler ces sujets. Les régions également accompagnent, mais d'une façon moindre, mais par exemple sur des sujets très spécifiques. Dans ma région en Normandie, il y a un accompagnement de tout ce qu'on appelle centre-ville reconstruit. Voilà, d'accord. Donc c'est sur vraiment des sujets plus spécifiques. Mais enfin, tout ça mis bout à bout, ça fait une ingénierie locale de connaissances, d'identification et surtout de planification de l'usage de ces friches. Et clairement, le ZAN, c'est de la planification. C'est combien on va consommer d'hectares dans les 10 années qui viennent et puis comment on fait pour être à zéro artificialisation nette.
Comment est-ce qu'on repense le développement de nos territoires demain ?
Donc c'est de la planification. Donc si on consomme 2 hectares sur une friche là, c'est mieux que de consommer 2 hectares sur un terrain vierge et d'artificialiser. Donc tout ça, on en a besoin et à toutes les échelles, puisque à l'échelle du SCOT, évidemment, par définition, c'est là où on peut programmer, la consommation interco par interco, en jouant des solidarités, des centralités. Quand c'est la ville centre, elle prend un certain nombre de compétences et du coup, on accepte qu'elle consomme de la terre et du foncier. Mais par exemple, dans certaines communes plus petites, c'est installer un pôle de santé, je le redis, ou alors maintenir une école, développer une école. Enfin, tous ces sujets-là doivent être traités en planification. Ça, c'est le premier type d'ingénierie. Et honnêtement, plutôt que d'avoir des services de l'État qui se piquent d'ingénierie locale, c'est l'ingénierie locale à la main des élus locaux et financée par les collectivités locales qui sont le meilleur outil pour pouvoir à la fois se transposer dans les projets des élus et des collectivités et aussi dans ceux des habitants, parce que la connaissance locale, par définition, permet de faire le meilleur projet et celui qui colle le plus aux attentes et aux besoins. Et puis le deuxième type d'ingénierie qui a besoin d'être vraiment, franchement, énormément développé, parce qu'il y a beaucoup de vides et de manques en France, c'est l'ingénierie de portage du foncier. Il y a plein de structures qui peuvent tout à fait répondre les établissements public foncier, par exemple, mais il n'y en a pas partout, il n'y en a pas dans toutes les régions.
Qui peuvent aider notamment ce travail de planification.
Exactement, il y a les établissements publics locaux, les SPL et les SEM qui peuvent aussi faire du portage de foncier. Là, pour le coup, sur des opérations programmées à grande échelle, mais plus petites qu'évidemment une échelle départementale ou régionale. Et puis, il y a aussi tout l'accompagnement privé qui peut être effectué sur du portage de foncier. Et puis, il faut donner des outils à la main des élus, à l'échelle municipale ou à l'échelle intercommunale, comme les foncières, par exemple, les foncières ad hoc, qui sont un nouvel outil qui ne s'est pas encore énormément développé, mais qui va prendre beaucoup d'importance, parce que demain, le foncier va être rare et cher, et il ne faudrait pas que le foncier soit un unique objet de spéculation, en tout cas, pas qu'au sens financier du terme.
Il doit être un
objet de spéculation politique au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il doit être une espèce de valeur ajoutée pour permettre à chacun de se développer et de répondre aux besoins des territoires. Et ça va être surtout une énorme monnaie d'échange et de solidarité entre les grandes villes, les plus petites communes, les communes rurales, l'urbain, le périurbain. C'est-à-dire que cette grande enveloppe ZAN, eh ben c'est une grande enveloppe de foncier, et donc il doit y avoir une grosse part de maîtrise publique sur cette enveloppe du foncier, parce que sinon le renchérissement va être tel qu'on ne pourra plus construire, ou alors on construira à des coûts qui finalement ostraciseront quelque part toute une partie de la population qui ne pourra pas accéder à ce foncier.
Je note la nécessité de s'appuyer sur l'ingénierie et le savoir-faire local qui finalement est au cœur des territoires, qui le permet de mieux comprendre quels sont les enjeux à l'échelle de chaque territoire. Merci Madame la Sénatrice d'avoir été parmi nous aujourd'hui, et puis on suivra la proposition de loi qui a été adoptée au Sénat sur ce sujet avec ses évolutions à venir. Merci Madame la Sénatrice.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Rencontre avec un élu, une émission proposée par Compublic, agence de communication institutionnelle. À réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria.